Europe 1,
16h-18h, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Jean-Philippe Ballas, c'est avec un beau portrait de femme que vous allez tenter de l'emporter à nouveau dans l'équipée sauvage.
Elle s'appelait Katherine Johnson. On a appris sa disparition hier à l'âge de 101 ans. Katherine Johnson, elle était mathématicienne à la NASA à l'époque de la conquête spatiale et à l'époque aussi et surtout de la ségrégation. Elle était noire. Et son parcours exceptionnel, je ne sais pas si vous vous souvenez, son parcours avait été raconté dans un film qui s'appelait « Les figures de l'ombre ».
Il faut une calculatrice pour l'aérospatiale.
Katherine fera ça très bien. Tout ce qui est chiffre, elle en fait son affaire.
Il n'y a jamais eu de gens de couleur ici. Ne me faites pas honte.
Vous devriez être ingénieur.
Je suis noire et femme. Je ne vais pas envisager l'impossible.
Voilà, impossible, disait-elle. Seulement voilà, Katherine a une telle maîtrise des chiffres qu'elle va devenir, en quelques mois, la reine incontestée du calcul des trajectoires. C'est-à-dire que les astronautes, comme John Glenn notamment, les astronautes ne font confiance qu'à elle seule. C'est-à-dire qu'ils se méfient des ordinateurs. C'est un peu les débuts à l'époque. Ouais. On a des grosses bécanes, des gros IBM, mais les calculatrices de la NASA sont là derrière pour réviser tous les chiffres. Katherine Johnson, c'est un peu elle qui mène la danse. Alors, ça n'empêchera pas, malgré tout, les humiliations. C'est la ségrégation, je le rappelle, à l'époque. Et ça aussi, c'est très bien raconté dans le film.
Où étiez-vous passé ?
J'étais aux toilettes, monsieur.
Aux toilettes ? 40 minutes par jour ?
Il n'y a pas de toilettes pour moi ici.
Comment ça, il n'y a pas de toilettes pour vous ici ?
Il n'y a pas de toilettes pour moi ici. Pour les gens de couleur, dans ce bâtiment, il n'y a pas de toilettes. Et il n'y en a pas dans les autres, sauf au groupe Ouest, à 800 mètres d'ici.
Voilà, et on voit le personnage de Katherine Johnson pendant tout le film qui fait des allers-retours incessants sous la pluie comme ça pour aller aux toilettes. Il aura donc fallu attendre un livre puis un film il y a quelques années pour que les États-Unis découvrent finalement l'histoire de ces calculatrices de la NASA. Katherine Johnson, elle va recevoir la plus haute distinction civile américaine, c'est la médaille de la liberté. Elle va la recevoir, cette médaille, des mains du président de l'époque, Barack Obama.
Katherine a été une pionnière qui a fait tomber les barrières de la race et du genre. Elle montre aux jeunes générations que chacun peut réussir et viser les étoiles.
Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, Katherine Johnson est souvent citée en exemple aux États-Unis. Elle était de son vivant, elle le sera encore plus désormais maintenant qu'elle est partie. Ce jour-là, à la Maison-Blanche, c'était l'une de ses très rares apparitions. Elle faisait très très peu de discours, Katherine Johnson. Elle parlait quasiment jamais. Elle aimait plutôt les chiffres, on comprend. Elle disait simplement que toute ma vie, finalement, je n'ai fait que poser des équations, je n'ai fait que répondre à des questions. Je l'ai fait du mieux que j'ai pu. Et elle l'a fait avec beaucoup d'intelligence et beaucoup, beaucoup d'humilité.
Et donc, c'est elle, par exemple, qui a guidé quand ils sont allés sur la Lune ? Elle était
La trajectoire de Neil Armstrong, notamment, la trajectoire de Apollo 11, c'est elle qui l'a calculée et vérifiée.
Et est-ce qu'on sait si aujourd'hui, ça existe encore, ce métier de calculatrice, ou bien les ordinateurs sont tellement, je dirais, performants qu'on n'a plus besoin de gens, d'humains derrière pour vérifier les trajectoires ?
C'est ça qui est un peu dingue, c'est que vous vous rendez compte que le premier pas sur la Lune, c'était il y a 50 ans, ouais. Et le moindre téléphone qu'on a sur nos tables aujourd'hui
est plus
puissant que n'importe quel ordinateur de l'époque. Fallait être un peu dingue hein, quand même pour partir dans les étoiles en ce temps-là.
Mon cher Stéphane Rondonnec, c'est avec une certaine fierté que je vous présente à présent un de nos meilleurs journalistes. Jérôme Lacroix, alias Magic GG, est notre ultime concurrent du jour et vous allez voir, pas des moindres, c'est un journaliste qui ne se contente jamais de l'info brute, il faut toujours qu'il la décortique et son analyse débouche souvent sur de vraies questions.
Coronavirus, vol à main armée de papier toilette à Hong Kong.
Les habitants se sont rués sur le papier hygiénique par crainte d'une pénurie en raison du coronavirus. Et pourquoi ça donne la diarrhée maintenant ?
Bien vu GG, il faudra enquêter là-dessus. Aujourd'hui, c'est une histoire bouleversante, très très loin de cette histoire de papier toilette dont vous nous parlez. C'est une histoire qui se passe en Angleterre.
Cette scène, il y a 40 ans, quasi jour pour jour. Un footballeur, un gamin de 18 ans, marque un but qui sera élu quelques mois plus tard, but de l'année 1980. En Angleterre, le commentateur s'en étouffe presque. Une sublime reprise de volée, frappée en pivot depuis l'extérieur de la surface, un but de PlayStation. Le gamin tireur, il joue dans le modeste club de Norwich, tout à l'est de l'Angleterre. Il marque ici face au grand Liverpool. Il s'appelle Justin Fashanu. Je vous raconte l'histoire de cet immense espoir du foot anglais et mondial, adulé et puis détesté, conspué par certains, une pression qui le conduira au suicide à peine 37 ans en 1998. Justin Fashanu, anglais d'origine nigériane, il est si bon dans les années 80 qu'en 1981, il est transféré de Norwich à Nottingham Forest, à l'époque, pour les connaisseurs, double champion d'Europe en titre, un transfert contre la somme
1 million de livres pour l'éternité. Il est le premier joueur noir à être acheté pour un tel montant.
Mais c'est là que sa vie bascule.
Oui, à Nottingham, il se retrouve confronté à l'entraîneur de Nottingham, Brian Clough. Moi, coach et méchant, qui ne supporte pas Justin Fashanu. Les humiliations sont quotidiennes à l'entraînement. L'entraîneur l'insulte. Gonzesse, tapette, pardonnez-moi pour ce mot horrible. Le boss britannique, il a découvert que la star fréquente des bars gays en ville. Il finit par lui interdire les entraînements. Ben oui, Justin Fashanu, il est homosexuel. Il est alors très marqué par cette stigmatisation. Sa carrière s'effondre, suivront 10 ans de multiples exils dans des championnats mineurs. Alors, il décide de le dire. Un matin d'octobre 1990, ce titre à la une du tabloïd The Sun, Justin Fashanu confesses, I am gay. Courage, mais scandale aussi à la une pour certains. Voilà Justin Fashanu, premier footballeur professionnel en activité à révéler son homosexualité. Mais dès lors, il est ostracisé par le milieu et aussi par sa famille, notamment son propre frère cadet John, avec qui Justin a grandi en famille d'accueil. Footballeur, lui aussi, ce petit frère à Wimbledon, équipe surnommée le Crazy Gang, le gang des dingues, des durs, des bad boys. Au moment du coming out, ce petit frère dira « Justin, il n'est pas vraiment gay, il veut juste qu'on parle de lui ». En réalité, il est furieux parce que juste avant la révélation, il a payé son propre frère 75 000 livres, 100 000 euros à l'époque, je cite, pour qu'il la ferme. Alors soyons clairs, Justin Fashanu, ce n'était pas un saint, il aimait la baston, il aimait les bagnoles, il a mené une vie débridée, surtout dans ses dernières années. Il avait d'ailleurs monnayé sa confession, son coming out dans The Sun. En 1998, c'est seul et accusé de viol par un jeune mineur qu'il finit dans un garage d'un quartier malfamé de Londres. On retrouve son corps pendu à un câble électrique, il s'est suicidé et dans une lettre, il écrit « Je préfère mourir plutôt que causer encore plus de tristesse à mes amis et ma famille. »
Et aujourd'hui, il est devenu une figure de la lutte contre l'homophobie.
S'il savait que chaque mois de février, c'est en Angleterre la Justin Campaign, campagne annuelle de lutte contre l'homophobie qui porte son prénom. S'il savait que sa nièce a créé une fondation à son nom de famille qui lutte contre les discriminations, toute homophobie, racisme. S'il savait qu'il était désormais au panthéon des sportifs britanniques, le Hall of Fame, il y est entré mercredi dernier. Jour de son anniversaire, il aurait eu 59 ans. Alors, il est aussi un exemple pour les footballeurs gays en activité qui se taisent encore aujourd'hui partout dans le monde. Même si la tendance, il faut le dire, est vraiment à une prise à bras-le-corps de tous les délits de la part des instances mondiales, il y a encore beaucoup de travail.
Ah bah voilà. Bah j'allais faire une réaction qui n'est peut-être pas juste en fait. J'allais vous dire, ça paraît, alors l'histoire est terrible, mais ça paraît tellement loin, ça paraît fou, ça paraît presque risible, mais en fait, à la fin de votre papier, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, il n'y a pas tant de footballeurs qui assument leur homosexualité ouvertement et qui communiquent là-dessus. Donc peut-être qu'il y en a même qui la taisent, effectivement, encore aujourd'hui.
Énormément, surtout dans le foot. Dans les autres sports, c'est moins vrai, mais c'est vrai que dans le foot, c'est encore un sujet très, très, très tabou. Et le problème de l'homophobie, et il faut le saluer, est de plus en plus vraiment pris à bras-le-corps par les instances internationales.
Nos journalistes ont 10 secondes pour vous convaincre de voter pour eux. Jérôme Lacroix, pourquoi est-ce vous qui devriez repartir avec la couronne aujourd'hui au-delà du fait qu'elle vous irait bien ?
Votez pour moi, s'il vous plaît, Stéphane. Sinon, je chute au classement et là, c'est Pétrin Express.
C'est bossé.
C'est bossé. Ouais, bah après, bon, est-ce qu'il faut bosser dans ces cas-là ou jouer plutôt la spontanéité ? Je ne sais pas. Jean-Philippe Ballas, pourquoi voter pour vous ?
Bah, y a des exemples dans la vie et Katherine Johnson en était un bel exemple.
Oh mais il n'y a pas de jeu de mots là. On est un peu déçus, du coup c'est un peu déceptif. Anne Le Gall, pourquoi voter pour vous ?
Voilà, attention. Alors, parce que quand on a parcouru comme ça 35 pays sur 5 continents, qu'on a mangé des migales, qu'on s'est fait piquer par des fourmis vénéneuses, il faut revenir au concret. Et donc je mise sur le côté décalé de mon sujet sur les dates de péremption.
Très bien.
J'ai pas trop compris ce que c'était les fourmis vénéneuses, mais des fourmis extrêmement venimeuses, elles sont venimeuses, on ne sait pas trop. Nicolas Carreau, pourquoi voter pour vous ?
Parce que j'ai cru comprendre en fait en vous regardant sentir les livres que vous étiez un peu connaisseur, et là je vous ai quand même ramené du Romane Conti, du Gévrey Chambertin que je suis allé chercher dans ma cave personnelle.
Voilà. Mais vous ne les avez pas offerts, vous avez tout embarqué.
J'ai fait goûter.
Vous avez fait goûter et c'est déjà pas mal. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs, s'il vous plaît.
Vous votez tous les matins, évidemment, sur Twitter pour, a priori, quelle est la meilleure chronique, celle sur laquelle vous misez. Et ils ont tous misé sur Jean-Philippe Ballas aujourd'hui.
Ils ont misé sur Jean-Philippe Ballas.
Merci, la France.
Je vais vous dire quelque chose. Moi aussi, j'ai voté pour Jean-Philippe Ballas.
Oh oui.
Et donc, attention.
Oh là là, il a déjà 3 points.
Ça fait déjà 3 points. Vous avez vu le temps que j'ai mis pour calculer 2 plus 1 quand
oui,
même.
C'est vrai.
Voilà où on en est quand même. Ah, quand je dis que j'étais pas bon en maths,
pour parler
d'une
mathématicienne en plus.
Mais vous le savez ici, c'est à l'invité que revient la lourde responsabilité de trancher. Stéphane Rottenberg, qui selon vous mérite d'être élu chroniqueur du jour.
J'explique.
Ah oui, bien sûr.
Ok, bon. Alors, alors, bien évidemment, il y a le principe de galanterie qui fait que là, j'irai vers Anne. Bon. Mais non. Oublions la forme, vous étiez tous très bien. Parlons du fond et du choix du sujet, puisqu'on est entre journalistes. Là, pardon Anne, le sujet conso, je trouve un peu tarte à la crème, un peu marronnier.
Allez,
déjà bam. Vu, au revoir,
clac.
Merci.
Allez, bon. Au revoir, merci. Voilà.
Au-delà du talent, de la manière de le faire. Hein. Mais bon, le sujet est déjà vu, entendu. Du bon, voilà, conso quoi. Nicolas, très branché, très parisien, peu intellectuel. Ouais, bon,
j'ai ramené un livre de la campagne.
Oui, je sais, mais le côté un peu.
J'ai ramené le livre en plus.
Oui, je sais, mais le côté, les livres ont une odeur, enfin ça sent un peu, il y a un côté un peu clivant. Bon, voilà.
Ouais, on n'est pas sur Paris 1er.
Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un côté dernière page de Libé, bof, pas moi. Donc. Et puis c'est vrai que derrière, il y avait deux sujets d'une puissance qui étaient difficiles. Voilà, par contre, je reconnais qu'au niveau de la gaudriole, on descend d'un cran.
Ah, là, oui, clairement.
Donc, du coup, on est sur des sujets profonds, voilà, avec des grands sujets très lourds, bon, voilà, et à la fois très nobles. Donc voilà. Donc difficile, voilà, entre deux causes. Si j'en choisis une, on va me vouloir de ne pas avoir choisi l'autre. Donc moi, je vais prendre juste par esprit de contradiction avec les auditeurs et avec Mathieu, je vais choisir Jérôme parce qu'effectivement, c'est un sujet aussi qui mérite d'être mis en évidence. Et donc, par esprit de contradiction, cher Mathieu, je ne vais pas être d'accord avec toi ou vous.
Et donc, nous avons aujourd'hui, égalité. Ça arrive, deux gagnants. Oui. Égalité, Jean-Philippe Ballas et Jérôme Lacroix. Une couronne pour deux. Une couronne pour deux, ça pourrait être le titre d'un théâtre de boulevard.
Oui.
D'une pièce.
On a eu peur.
Sur les gros boulevards.